Radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Creuse.
Ici, on est à la médiathèque Saint-Sulpice-le-Dunois et on est avec
Monique Valette, la responsable de ce bel établissement. Suivez-moi. Le bâtiment est assez impressionnant parce que à l'origine, c'est l'ancienne forge du village. La médiathèque existe depuis 2020, donc ça fait 5 ans cette année. On est installé dans ce bâtiment qui a été complètement refait à neuf. L'architecte a souhaité garder toute la hauteur de plafond de l'ancienne forge, donc on y voit les poutres. Et nous avons encore des personnes sur la commune qui ont vécu et qui ont le souvenir de cette forge, notamment monsieur Serge Petit, et qui nous parlait que quand Petit, il venait amener les deux chevaux de son papa pour pouvoir être ferré. L'odeur du sabot, quand il reçoit effectivement le fer chaud, cette odeur-là lui est restée, c'est vraiment, on va dire, peut-être une Madeleine de Proust, je ne sais pas. Voilà, et donc, ils ont des petits souvenirs comme
je
ça.
Je suis Nadine Lemoine et je viens de savoir par ma responsable, avoir confirmation, qu'il y a dû y avoir l'incendie en 2010, après la commune a acheté la maison, pour du temps de monsieur de Lafont, pour faire une médiathèque, parce que la bibliothèque qu'on avait dans la mairie, il fallait monter des escaliers et c'était pas évident pour les personnes d'un certain âge. Le monsieur n'était pas chez lui quand c'est arrivé. Heureusement. Ah oui, monsieur Charles, pourrez-vous le dire plus de choses? Il arrive.
Moi, je suis Charles Parineau.
Avant, comme c'était une forge, le dernier forgeron, il était là quand?
C'est mon oncle qui était le forgeron ici, là. En 78, il est décédé. Donc il a travaillé pratiquement jusqu'à la fin à la forge là. Il y avait ce qu'on appelle le travail, c'est-à-dire c'était pour faire les vaches et les bœufs. Et il y avait un travail aussi pour faire les chevaux, mais dans la cour. Et puis ici là, il y avait ce qu'on appelle un marteau pilon à l'époque.
Je sais pas du tout ce que c'est.
Et ben c'était un gros marteau. Il s'en servait pour affûter les socles de charrue. C'est un truc qu'ils appuyaient sur une pédale et ça marchait tout seul. C'était une grosse tête en ferraille avec un truc en bois. Ils dégrossissaient les socles de charrue avec cet engin, là. Du temps de mon oncle et de ma tante, là, ils vendaient, pouvaient y acheter un tracteur, une mobilette, une tronçonneuse, un vélo. Après, mon oncle, après, il a des problèmes de santé, donc il travaillait beaucoup moins, quoi. Mais c'est quelqu'un qui forgeait très très bien, hein, la clinique de la Marche à Guéret. La maison qui est à côté, c'était la maison du docteur Tran, c'était le fondateur de cette clinique. Et si vous avez l'occasion de regarder, vous verrez tous les fers forgés. C'est mon oncle qui les a tous faits dans les années 70-75. Hein. Si vous avez l'occasion, faut s'arrêter devant, faut y penser, quoi, mais c'est vraiment chouette. Hein.
Ouvrez l'œil à Guéret pour retrouver ces fers forgés de Saint-Sulpice-le-Dunois.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Berry.
Et le Pétouen, demain je fonds les Antounailles. Tu vas, Robin, goûter le vin nouvieux.
Périchon dans le texte.
Les Antounailles, c'est la mise en tonneau, pour laquelle bien sûr on utilise un entonnoir. Après vendange, les rouges y sont mis en cuve. Le jus puis la grappe, le mou et le marc, comme disent les seuses qui ont été aux écoles. Puis de temps en temps, on brasse tout ça. Après, quand le vin il a fini de bouillir, on fait les entounailles. On ouvre la champlure de la tuve au-dessus d'un bâtier, puis en des sciaux puis des pitarniers, des brocs à vin, on remplit les tounes après les avoir ben abreuvés puis méchés. Évidemment, on goûte en que les voisins puis les amis ce vin d'ouvio dont on est si fier. La grappe qui reste, elle est repressée en de lio. Ça fera la boisson, une petite pichette qu'on sera ben content de trouver pendant les coups de chaud des moissons. Ce qui reste ira à l'alambic. Ça fera l'agnole qui vous réchauffe le matin en hiver avant d'aller au champ. Un auteur, qui m'est malheureusement inconnu, raconte ses entonnailles. Aux vignes, j'en tout cueilli. À son fait, les vendanges. Dans les celliers puis les granges, le vin, dans les tuves, il a bouilli. Mais la champlure, l'entonnoir au poinçon, puis var sa bonne allure, c'est le jour des entonnailles. Ah, de la champlure, il pisse dru, en riolant, il pétille. Comme des étoiles, ça brille. Oh, dans les verres, il est pas bourru. Les brouilles se remplissant jusqu'à Dieu la rasée, paraient d'écume rosée. Hit vallon de la tuve au poinçon. En que la grappe, je fronde la bonde. La pitchette remplira le pichet. C'est le jour des entounailles. À la noute, ma dandon, goûtons-y donc. C'est le jour des entounailles. À la noute, ma dandon, bijons-nous donc.
En Perrichon dans le texte. En réécoutez podcast sur ici.fr.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici au Serre.
Itinéraire bis à Joigny cette semaine. Aujourd'hui, je vous propose de vous arrêter aux couleurs Le Roux. Marcel Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Ces couleurs Le Roux, il y a toute une histoire, Marcel, derrière.
Oui, c'est une longue histoire qui dure depuis 115 ans. Avec différentes étapes, différents mouvements de peinture aussi parmi les clients. Certains participent à l'histoire de l'art.
Les caractéristiques de ces couleurs, quelles sont-elles ?
Le roux est un très très haut de gamme, donc en fait ça vient d'un taux de pigment dans le tube, dans la couleur. Ce sont des pâtes traditionnelles telles qu'on avait au 15e siècle, au 16e siècle, etc. Donc rien n'a changé de ce côté-là. En fait, c'est le respect du pigment avec un très bon broyage, une très bonne huile de lin ou une huile aussi de yette, qui est donc du coquelicot. Et on respecte la tradition. On est la meilleure marque, je pense, sincèrement, en France, ça c'est sûr. Et peut-être en Europe aujourd'hui.
Respecter la tradition, ça veut dire que ces couleurs, ces peintures, sont faites à la main ?
Quasiment. Alors le broyage, lui, n'est pas fait à la main parce qu'il faut une force considérable. Donc en fait, depuis un peu plus d'un siècle maintenant, les couleurs pour artistes se font à l'aide de broyeuses qui pressent la pâte, le pigment, donc jusqu'à avoir une pâte homogène. Et cette pression par les rouleaux est fantastique, ça a même amélioré la peinture à l'huile par rapport à ce qui se faisait dans le temps.
Comme la cuisine, il y a de vraies recettes.
Ah oui, ça, oui, oui. Chaque pigment a sa propre recette. Ça, c'est très important, puisque suivant la composition chimique du pigment, la prise d'huile, ce qu'on appelle, n'est pas la même du tout d'une couleur à une autre. Et même, quelquefois, sur la même veine chimique, par exemple bleu outremer clair et bleu outremer foncé, qui sont très proches au niveau du ton, les quantités d'huile, la quantité d'huile pour chacun de ces pigments n'a absolument rien à voir, le temps de broyage non plus.
Des peintres, des artistes qui font confiance ou qui ont fait confiance aux peintures Le Roux ?
Il y en a beaucoup. Dans les plus célèbres, évidemment, que tout le monde connaît, il y a Dali. Il y a Picasso, aujourd'hui on a Anselm Kiefer, qui est un peintre allemand qui vit en France, qui est mondialement connu. On a aussi des peintres extraordinaires, comme Eugène Leroy, et en plus c'est un peintre qui travaille beaucoup en matière, et on se rend compte aujourd'hui qu'aucune toile n'a bougé. Alors qu'il y a 1 ou 2 centimètres d'épaisseur sur ces toiles, et absolument aucun dommage sur ces toiles actuellement, c'est parfait.
Derrière nous, il y a l'atelier, et c'est un atelier assez extraordinaire hein, quand même.
Ben oui, déjà l'atelier, les outils qui sont dedans, certains ont plus de 80 ans, les broyeuses ont plus de 50 ans maintenant, c'est dans son jus, c'est un musée vivant, hein. Et ça le restera, c'est très haut de gamme, il y a une âme, je pense qu'on ressent une âme, qu'on soit peintre ou pas, quand on rentre dans cet atelier, on sent qu'il y a quelque chose, quoi.
Ici,
actu local, musique et bonne humeur.
Il se lève, c'est l'heure, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, éteint le stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. vois en panoramique urgent et désirant. Une bombe décapitée dans sa décapotable. Cauchemar, highway, road trip, fumée noire. Une vente vorace du au fond d'un couloir. T'en sors pas, cafard, Patrick, idée noire. Avalé par l'espace au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir.
Ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Héros.
Vous l'avez forcément déjà remarqué en allant de Palavas à Carnon, ce fortin qui trône au milieu de l'étang du Levant. C'est la redoute de Balestras, une tour de guet qui a passé 60 ans emmurée dans un château d'eau.
Au secours des pirates !
Au milieu du XVIIIe siècle, de nombreux pirates barbaresques arpentent notre littoral et détroussent les navires marchands. Et il y a aussi les Anglais qui se prennent pour les maîtres des mers. Fire ! Pour protéger les populations, Louis XV fait construire tout au long des côtes françaises une série de fortins équipés de sémaphores. Lorsqu'un bateau suspect se rapproche dangereusement, on envoie des signaux pour prévenir les gardes-côtes qui envoient alors au canon quelques coups de semonce. Du Gros du Roi jusqu'à Hague, dont construit un réseau de 8 tours de guet, on peut encore voir celle de Frontignan, Marseillan, Sète, au Grand Travers aussi, et donc celle de Palavas. Dès 1743, la redoute de Balestras assure sa fonction protectrice, et ça va durer plus d'un siècle. Autour de ce fortin, peu à peu, des pêcheurs installent leurs cabanes, et c'est tout un village qui finit par prendre forme. En 1906, on installe sur le toit de la tour une citerne qui va alimenter en eau les fontaines de la commune. Au début du XXe siècle, la station balnéaire, devenue reine des plages, voit ses besoins en eau augmenter. Alors en 1943, la mairie décide de bâtir un véritable château d'eau. Il y a toujours la cuve sur la redoute qui est alors emprisonnée d'un sarcophage de béton. Il faudra attendre les années 90 pour la redécouvrir. On détruit le château d'eau pour bâtir à la place le phare de la Méditerranée, 45 mètres avec son restaurant tournant au sommet. Et la redoute, elle, est démontée pierre par pierre par les compagnons du devoir. 300 tonnes de pierres marquées une à une et transportées sur un autre site. Il faudra aussi tailler de nouvelles pierres pour remplacer celles qui sont trop altérées. La ville de Palavas a choisi l'étang du Levant pour reconstruire le fortin à l'identique, dans la même orientation qu'à l'origine. Il trouve au milieu des flamants roses un écrin à sa mesure. La redoute de Balestras abrite depuis le musée Albert Dubout, dessinateur caricaturiste qui a contribué à la réputation de Palavas grâce à ses dessins du célèbre Petit Train. Voilà une bonne occasion d'aller la visiter.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Paris-Île-de-France.
Eh oui, il est à mes pieds d'ailleurs, le petit chien. Et il est avec moi aussi, juste à côté du chien, les bras croisés sur le torse, il est fier, c'est Olivier le maître chien. Olivier, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, décrivez-nous Binous.
Alors Binous, c'est un petit working cocker, donc un chien de travail, de couleur chocolat, qui pèse 13 kilos, et qui est spécialisé en stupéfiants et billets de banque, et qui a été décoré... De la distinction de chien héros 2025. C'est une des distinctions les plus hautes, ne serait-ce la plus haute en France à l'heure actuelle pour, concernant les chiens. Il faut savoir que en à peine 14 mois, il a trouvé déjà plus d'un million d'euros et il est à une tonne de produits stupéfiants.
Ça fait quoi de travailler avec un chien ?
Moi, c'est ma passion. Initialement, c'est le chien qui m'a amené en police. Quand on arrive à exercer un métier qu'on aime et avec une passion qu'on chérit au plus haut point, donc après, c'est l'extase en permanence, je dirais.
C'est pas le meilleur des collègues ?
Ah si, il nous contrarie jamais. Il va toujours dans notre sens. Donc oui, effectivement.
Vous l'emmenez chez vous ?
Ah oui, il est H24 avec moi. Que je sois en vacances ou en repos, le chien est tout le temps avec moi, tout le temps.
Il fait quoi Binous une fois qu'il a repéré, par exemple, une liasse de billets ?
Alors, qu'il retrouve une liasse de billets ou de la drogue, Binous va s'immobiliser, il va faire ce qu'on appelle un marquage passif, et donc il attendra sa récompense.
Et c'est quoi sa récompense ?
Sa récompense, ça va être sa balle, déjà, dans un premier temps, et puis après, quand on le ramènera à la voiture, que l'exercice sera fini, on lui donnera sa friandise préférée, du canard séché.
C'est une fierté, Binous.
Oui, c'est une fierté, parce que c'est un petit chien qui... déjà, c'est le seul en France, à l'heure actuelle. C'est une race qui est assez difficile à monter au dressage. Bon, une fois que c'est acquis, mais bon, il faut de la patience, arriver à ses fins.
Et ouais. Quand on l'entraîne, parce que comme tout policier, Binous, chien policier, il s'entraîne, ça se passe dans la pièce qui est à côté. On ouvre la porte, on voit quoi dans cette pièce ?
Bon, on voit différentes choses que le chien est amené à rencontrer sur différents théâtres de travail, on va dire. On va retrouver dans cette salle, on va retrouver un lave-vaisselle, une machine à laver, un frigo, du matériel divers et varié.
Et après, on lâche Binous.
Binous et ses confrères, afin qu'ils puissent s'amuser dans leur Disneyland favori.
Bon, on va laisser Binous tranquille. Là, il est en pause maintenant.
Alors là, il est en pause. Il attend éventuellement qu'on l'appelle pour aller reprendre le service.
Merci beaucoup, Olivier. Olivier Maître Chien ici à Villeneuve-Saint-Georges, la brigade cynophile, avec cette belle récompense, hein, récompenser ce chien à l'occasion des trophées des chiens héros, un événement national. Et c'est une fierté locale de l'avoir ici, Binous. Un Binous ! Voilà, je le caresse un peu, je gratte la tête.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Picardie.
Ils sont jeunes et ont un avis sur tout. Ici Picardie donne la parole au Tchopicard. Annick Bonhomme.
Que veut dire l'expression « les cordonniers sont les plus mal chaussés » ?
Les cordonniers, ils n'étaient pas les plus riches, du coup, ils n'avaient pas les plus belles chaussures.
Ils avaient tellement de clients qu'ils n'avaient pas le temps de s'en faire à eux-mêmes.
Ou alors, c'est, par exemple, quand on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est ils sont mal chanceux peut-être.
Moi, pour moi, les cordonniers les plus mal chaussés, c'est eux qui font les chaussures. Donc, eux, forcément, ils les vendent, mais ils oublient tout le temps pour eux et ils pensent pas à eux. Donc, forcément, eux, ils ont rien du tout. Ils sont pauvres, je veux dire. Bon, bref.
Quand est-ce qu'on l'utilise, cette expression ?
Quand on a des chaussures, ils sont toutes cassées.
Par exemple, si quelqu'un n'aime pas nos chaussures, ils vont nous dire « Ah toi, t'es le mal chaussé de l'école, par exemple, ou alors de la famille. » Ça dépend, après notre cas de situation.
Pour moi, on peut l'utiliser souvent quand quelqu'un n'aime pas les habits ou tout simplement quand on a de la malchance ou en cas d'harcèlement, mais à mon avis, c'est rare. Et surtout quand il y a des gens qui viennent avec des habits sales, alors qu'il y a d'autres gens qui viennent avec des habits riches, tissus bien, et les autres, ils s'habillent plus mode vitesse, quoi. Et du coup, forcément, on leur dit « Oh, mais t'es vraiment un cordonnier mal chaussé, toi, dis donc. Hein. »
Je sais bien que t'as voyagé dans les plus beaux pays, goûté les plus beaux hôtels et les grands lits. Près de lui, le chemin du bonheur est bien droit. J'ai compris, avec moi, C'est vrai que notre lit sera plus petit, parce que je veux que tu sois plus proche de mes bras. La route vers le bonheur sera plus longue aussi, juste pour avoir plus de temps. De bijoux, de parures, de tout ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui. Vous vivez dans le plus bel appart de la rue. J'ai compris. Avec moi, t'as pas besoin de tout ça puisque rien ne t'habille. Nous on vivra au-dessus du monde sur les toits. Et de toute façon les bijoux ça s'abîme. Le seul qui compte sera la nôtre.
Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ICI Provence.
Bon, on a retrouvé la bonne mère.
Oui, ça y est, la bonne mère a retrouvé sa couronne. Ah. Surtout, c'était décidément le thème ce week-end, avec la couronne de l'impératrice Eugénie volée au musée du Louvre, puis retrouvée. Pendant que Donald Trump diffuse des images de lui générées par IA avec une couronne sur la tête et aux commandes d'un avion sur lequel il lâche littéralement du caca, oui, de la merde sur le peuple américain, la classe. Revenons à notre couronne plus noble, c'était évidemment l'événement majeur de la semaine dernière que nous avons suivi avec passion. Hein. Nous avons tous et toutes été émus de ces images avec l'hélicoptère qui porte dans le ciel de Marseille la couronne de la bonne mère, 150 kilos quand même, c'est un peu plus que celle que j'ai au fond de la bouche.
Elle tient bien.
Elle tient bien, ouais, ça va. Et donc voilà, ça a fait la joie de tout le monde. Oh, bonne mère, c'était l'occasion ou jamais de lancer cette interjection qui fait partie d'une série d'expressions comme monter à la bonne mère, porter un cierge à la bonne mère, ou on peut y voir la bonne mère au travers. Ça, c'est pour quelqu'un de très très maigre comme moi, si vous...
Non, oui, non, peut-être pas. J'imagine.
La bonne mère, c'est du patrimoine à la fois religieux, spirituel, architectural, culturel, linguistique, et elle est inspirante. Hein. Dans son roman Les Nistons d'Arin, qui est de Robert Dagani, un personnage se souvient du cantique des poissonnières à Notre-Dame de la Garde, en Provençal, Perti canta di sa manière, vierge vacillei pessunière, sous verbe est ao et crie d'un prune. Pour te chanter à leur façon, vierge, voici les poissonnières, leur verbe est haut et elle crie fort. Alors, puisqu'on parle de verbe haut, prenons un peu de hauteur sur les hauteurs de la colline de la Garde, justement. Et on va le faire avec quelques citations d'Henri-Frédéric Blanc, ce qui nous permettra de penser à lui parti trop tôt en début d'année et maintenant sous la protection de la bonne mère. C'est le sentiment qui traverse le personnage de Joby. Il lève les yeux et voit là-haut la bonne mère toute dorée, toute paisible, et c'est comme s'il la voyait pour la première fois. Dans Cagole Blues, c'est Marie Zora qui raconte. Hein, avec des collègues, on est monté regarder la nuit. En grimpant la bonne mère, tu as plus de ciel qu'ailleurs, tu peux voir des étoiles en pagaille. Hein. C'était beau comme à la fête foraine. L'univers, ça doit être chouette à visiter. À force de regarder les étoiles de la nuit, tu as l'impression que c'est elle qui te regarde. Tu te sens un petit rien et d'un coup, tu te sens tout. Il m'est venu la chair de poule métaphysique. L'immensitude, c'est pas juste poétique, c'est aussi philosophique. Ouvrons l'épître aux Marseillais maintenant. La bonne mère ne délaisse personne. Sa volonté prévaut sur toute chose. En tout et pour tout, à elle la louange. Aïoli sur vous. Et pour finir, laissons Henri-Frédéric Blanc, dans le livre de Joby encore, nous laisser entrevoir la dimension transcendantale de la bonne mère. Il est question de plein de gens, pas trop tranquilles, bruyants, qui arrivent plein d'histoires. La suite, je la lis. Alors il monte se dépayser à peu de frais, voir la mer en cinémascope, histoire de se donner de la poésie, de la respirance, une bonne claque de Mistral pour se secouer l'âme. Ça fait du bien d'exister sans personne sur votre tête, sauf la bonne mère. Mais elle ne vous commande pas, elle ne vous humilie pas, elle ne vous gueule pas aux oreilles, elle ne vous menace pas de vous jeter à la rue, elle ne vous fait pas mille tracasseries pour vous dégoûter de l'existence, elle ne vous écrase pas de son silence, elle ne vous éhantit pas de son indifférence. C'est la bonne mère de tous les Marseillais qui veille sur eux, et quand elle a le temps, sur le reste de l'univers.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Loire-Océan.
On part en Vendée ce matin à Boin, tout près de Beauvoir-sur-Mer et Noirmoutier. Voici François, conteur d'histoire depuis 1987. Il transforme chaque balade en un voyage dans l'imaginaire. Il fait naître des histoires qui touchent petits et grands, mêlant tradition locale et émotion. Une passion présente depuis très longtemps pour François.
Ça vient de très loin, ça vient de ma grand-mère qui racontait des histoires à mon papa et de mon papa qui nous racontait des histoires quand on était petit. Notamment une histoire que ma grand-mère lui racontait. L'histoire de Jean sans peur. C'est l'histoire d'un petit garçon qui part de chez lui et qui rencontre le diable.
Oh
ouais. Et c'est la première histoire que j'ai racontée devant un public. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que j'avais un don pour le conte.
Ça se sent, le fait d'avoir ce don pour raconter les histoires, c'est parce que c'est pas donné à tout le monde.
Alors pour moi, c'est donné à tout le monde, mais c'est une passion et puis c'est un plaisir d'emmener des gens juste avec l'imaginaire, avec très peu de décors et juste avec les mots. Alors moi, j'adore les mots. J'attache énormément d'importance aux mots, à leur sens. Et quand j'invente une histoire, eh ben je choisis mes mots avec beaucoup de rigueur.
On est d'accord, c'est votre métier, François.
Alors, c'est mon métier. C'est devenu mon métier un peu après. Donc, moi, j'ai eu un parcours où j'ai vécu une vingtaine d'années à la montagne, du côté de Bourg-Saint-Maurice. Et j'étais gardien de refuge. Ben, je racontais des histoires au refuge aux gens, le soir, à la veillée. Et ils remontaient au refuge pour que je leur raconte mes histoires de colporteur d'histoires.
Quelle émotion, justement, vous recherchez à travers vos histoires, vous ?
Le rire, la joie. Et aussi, un des grands messages, c'est dire qu'on peut toujours se relever. Que dans chaque épreuve de la vie, on peut trouver quelque chose qui va nous faire rebondir.
Alors, elle est où la part de vérité là-dedans ?
Alors, dans le conte, il y a toujours de la vérité. D'abord, la première vérité, c'est le vocabulaire.
Ouais.
L'autre vérité, c'est que, ben, effectivement, dans la vie, on peut toujours s'en sortir. S'émerveiller de quelque chose, même quand on pense que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Qu'il y ait plein de vie, même... dans un lieu qui est quand même assez rigoureux.
Comment la Vendée vous inspire, vous, pour vos histoires ?
Ah ben, la Vendée, c'est mes origines, c'est ma famille, c'est mes oncles et tantes chez qui je suis allé beaucoup en vacances, c'est les bisous de mes grands-mères. Quand, après 20 ans en Savoie, je suis revenu en Vendée, je suis allé boire un café sur la route, et là, j'ai entendu l'accent. Un accent vendéen qui est très maternel, qui est très affectueux, qui est très affectif.
Comment vous imaginez votre avenir, tout simplement, François ?
56 ans, j'ai encore une trentaine d'années à travailler.
Ouais, vous êtes un jeune homme.
Voilà. Je pense que à 90 ans, ben, j'aurai la barbe encore un peu plus blanche, les cheveux tout blancs, mais je pense que je continuerai à faire des balades comptées au port du Bec, au port des Champs, à la Couplace, etc. Parce que ben, c'est pas un métier facile où on gagne des millions, mais ça c'est un choix. Et par contre, ben, c'est toujours le bonheur de faire rêver les gens, de les faire rire, énormément rire.
François, c'est un personnage attachant et généreux. Avec lui, une simple promenade devient un moment hors du temps.
Écoutez Ici, la nuit,
et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Bourgogne.
Ici Bourgogne vous raconte les contes et légendes de votre région.
Quel secret peut-il bien se cacher derrière la fresque du lavoir d'Aisis Outil ? Une peinture a priori sans histoire. Et pourtant, on y verrait le fantôme de Ninon. Bonjour Sandra Amani.
Bonjour Charlotte.
Racontez-nous le destin de la lavandière d'Aisis Outil, un extrait de votre livre « Légende de l'Auxois et de la Vallée de l'Ouche » aux éditions L'Or et la Plume. Tout commence aux côtés d'une famille bien modeste de l'Auxois. Ninon vient tout juste d'avoir 16 ans. Elle est la fille de Thomas, le bourrelier du village, un artisan qui travaille le cuir pour les harnachements d'animaux de trait notamment. Un métier indispensable à cette époque lointaine. La jeune Ninon est obligée de travailler pour subvenir aux besoins du foyer et surtout de son petit frère, Gérard. Leur maman est morte l'hiver précédent.
Père, j'ai décidé d'aller faire des lessives pour acheter de quoi cuisiner le potage cette semaine. Des dames de Précy ou du château de la cour d'Arsenay me paieront bien.
Très bien, ma fille. Ta mère serait fière de toi et tu lui fais honneur.
Tout le monde aime Ninon. Elle est jolie, serviable et réservée.
Tout l'inverse de ces adolescentes qui ne pensent qu'à séduire le premier venu. Ninon, elle, est une jeune fille sérieuse.
Jusqu'au jour où un étranger arrive au village. Un gars musclé, au visage hâlé à force de travailler au soleil. Il vient renforcer les rangs de la famille Robert, qui a besoin d'un ouvrier supplémentaire pour la saison des foins.
C'est vrai qu'il est bien besogneux, ce Julien.
C'est parce qu'il vient du Morvan. Ils savent travailler là-bas. Et puis il est grand, et séduisant. Mes amis ont finalement raison.
Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ?
Sans s'y attendre, Ninon tombe éperdument amoureuse de Julien. Elle va même jusqu'à imaginer devenir sa femme.
Un soir d'été, la chaleur est encore écrasante dans les champs de l'Auxois. Julien voit bien que Ninon le suit partout et lui sourit tout le temps.
Je ne peux pas me laisser séduire par Ninon. Même si elle est jolie et gentille, mon cœur appartiendra toujours à Gabrielle.
Gabrielle était en effet la fiancée de Julien. Elle est morte quelques mois auparavant dans un incendie accidentel. En effet, une grange a pris feu. Julien n'arrive pas à s'en remettre. Il est encore amoureux au-delà de la mort.
Jusqu'au jour où Ninon réussit enfin à le faire craquer.
Le Morvandio n'y tient plus. Le couple s'abandonne à des baisers fougueux. Bien plus que ça d'ailleurs. Une histoire d'amour est née. En tout cas, c'est ce que pense Ninon. Mais à la fin de l'été, Julien repart dans le Morvan.
Mon ami, la saison des foins est terminée. Je dois retourner chez mes parents. Je te quitte alors. Aussi, je ne reviendrai pas. Mon cœur appartient à Gabrielle, ma pauvre fiancée. Je ne pourrai jamais en aimer une autre.
Ninon est abattue. Comment Julien peut-il l'abandonner ? Surtout quand elle apprend...
Je suis enceinte !
Contes et légendes d'ici, tous les week-ends avec Ici Bourgogne.
Comment un amour d'été finit-il par hanter un lavoir de l'Auxois ? Voici la suite de l'histoire de la lavandière d'Aisis Outil, extrait de votre livre Sandra Amani, Légende de l'Auxois et de la Vallée de l'Ouche aux éditions L'Or et la Plume.
Après l'été fougueux avec son amoureux, Ninon devient triste. Julien est reparti pour toujours dans le Morvan. Même si sa fiancée Gabrielle est morte dans un incendie, il ne peut pas aimer une autre femme. C'est le 21 décembre de cette même année que Ninon découvre qu'elle est enceinte.
Oh mon Dieu, mais que va dire mon père ? Tout le monde va se moquer de moi. J'ai déshonoré ma famille.
Ninon décide alors que ça n'arrivera pas. Jamais on ne se moquera d'elle ou de son père.
C'est pourquoi, un soir, quand son père et son frère sont parfaitement endormis, Ninon récupère une aiguille à tricoter et sort discrètement de la chaumière. Sans penser à rien d'autre qu'à sauver l'honneur de sa famille, Ninon s'enferme dans un cabanon et entreprend son funeste projet. Bientôt, les draps qu'elle avait récupérés sont rouges de sang. Déchirée par d'horribles contractions, elle parvient pourtant à se relever et à se diriger péniblement vers le lavoir. La pauvre Ninon veut laver son corps tout autant que sa faute. Tentant, malgré sa souffrance,
de faire quelques ablutions. Elle supplie Dieu de pardonner ce crime, crime qu'elle regrette amèrement à présent. Mais le sang ne cesse de couler. Quelques mois plus tard, c'est du côté de Julien que le miracle se produit.
Mais qu'est-ce qui m'a pris de laisser tomber Ninon ? Gabriel ne reviendra jamais. Ninon est la seule qui puisse m'offrir un avenir. Je dois aller la retrouver.
Au printemps, Julien quitte définitivement le Morvan pour rejoindre l'Auxois, bien décidé à retrouver son amour d'été. Quand il arrive au village des Issoutils, il fait nuit noire. Il ne va quand même pas débarquer comme ça chez Ninon. Il s'allonge alors à côté du lavoir en pensant à elle, quand soudain, il l'aperçoit. Elle semble fatiguée et est toute de blanc vêtue. Au moment où il s'apprête à l'enlacer, elle lui tend le bout d'un drap.
« Aide-moi à l'essorer avant de retourner à la maison. »
Julien, surpris par le ton employé par Ninon, attrape néanmoins le bout de drap, mais celui-ci s'enroule autour de lui et le serre fort, de plus en plus fort, jusqu'à l'étouffer.
« À cause de ta lâcheté, j'ai versé le sang et tué notre enfant juste avant d'expirer. À présent, tu dois mourir toi aussi. » Je suis là pour me venger. Je t'attendais, la rage au cœur, même s'il ne bat plus. Je savais que tu finirais par revenir dans les parages. Malheureusement, il est trop tard et ta saloperie de Gabriel a eu raison de nous.
Julien suffoque. Le drap comprime son cou. Il porte les mains à sa gorge juste avant de mourir. Le fantôme de Ninon s'était vengé.
Aujourd'hui encore, ne vous attardez pas trop la nuit dans le lavoir des Issoutils. Au mur, sur la fresque des lavandières, apparaît souvent une ombre blanche portant un panier. C'est Ninon qui rôde pour venger les femmes abandonnées par leur amant.
Ici, actu local, musique et bonne humeur.
prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Berry.
Aujourd'hui, je suis à La Châtre, je suis à l'hôtel de Vilaine, qui n'a pas toujours été un hôtel. Mais alors, c'était quoi avant cet hôtel de Vilaine? Vous allez le savoir tout de suite.
Ici Berry, c'était quoi avant?
C'était quoi avant?
Margot de Rocco mène l'enquête.
C'était quoi avant?
Pour en savoir plus sur cet hôtel de Vilaine, je suis avec Vanessa Wendling. Elle est directrice du service culturel et du musée de Georges Sand. Bonjour Vanessa. Alors, cet hôtel de Vilaine n'a pas toujours été un hôtel?
Alors, c'était même pas vraiment un hôtel, c'était un hôtel particulier. En fait, un hôtel particulier, c'est une grosse maison. C'est pour résumer.
Une belle demeure.
Une belle demeure, voilà. Après, il y a toute une, une architecture des hôtels particuliers. Celui-ci est typique du XVIIIe siècle. On arrive côté rue Nationale dans la cour qui s'appelle la cour Génie de Vasson. On a la belle façade et on dit que c'est un hôtel entre cour et jardin puisque de l'autre côté, il y a le square Georges Sand, où nous trouvons actuellement, mais qui était le jardin de l'hôtel particulier. Et au milieu se trouve ce grand bâtiment qui est un des bâtiments les plus spectaculaires à La Châtre. Il est vraiment monumental et en fait, l'histoire, il s'appelle l'hôtel de Vilaine parce qu'il a été construit par le marquis de Vilaine. Donc c'est une demeure noble, voilà, à la fin du XVIIIe siècle. La petite histoire qui est un peu rocambolesque, c'est que quand le marquis de Vilaine construit cet hôtel particulier, il fait appel à un architecte creusois, un entrepreneur creusois qui s'appelle Barga. Mais on est aux prémices de la Révolution française et notre marquis de Vilaine en fait va émigrer. Il va plutôt s'opposer à la Révolution française et comme tous les émigrés, il va être un peu dépossédé en tout cas de son bien. Ils vont passer aussi dans le giron des biens nationaux. Et donc cet hôtel particulier, il l'a peu fréquenté, il en a peu profité puisqu'il en a profité à peine une dizaine d'années et après il est parti à l'étranger. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début du 19e siècle, après la Révolution française, la commune de La Châtre va racheter le bâtiment pour y installer un collège et un lycée.
C'était quoi avant?
Avec ici Berry.
Entre-temps, il est devenu un peu caserne, régiment, on y a stocké un peu plein de choses pendant quelques années, mais dès le début du 19e siècle, il devient collège et lycée pendant plus de 150 ans. Et puis à partir des années 1970, le collège va déménager dans un bâtiment neuf qui existe encore aujourd'hui, juste en face en fait de l'hôtel de Vilaine, et va devenir un lieu dédié plutôt à la culture. Mais le reste, c'est la bibliothèque qui existe toujours au premier étage, les fonds patrimoniaux. Et puis, depuis quelques années, on y a mis un musée provisoire et qui, en fait, était le prémisse de ce que va devenir le futur de cet hôtel particulier, qui ne sera ni collège, ni caserne, ni rien, qui va devenir sur l'intégralité du bâtiment, le nouveau musée Georges Sand et de la Vallée Noire à La Châtre. Donc ça, c'est pas tout de suite. On a au moins 3 ans de travaux. Il faudra attendre 2029-2030 pour redécouvrir l'hôtel particulier avec une autre fonction encore, puisque les bâtiments ne cessent de vivre et d'évoluer.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Azur.
Sympathique, généreux, pénible. Tous les matins, je croise ces mêmes visages, ces mêmes personnes. Des fois, ces gens qui me réclament le même morceau. J'ai un monsieur qui passe tous les matins et je lui joue « Que reste-t-il de nos amours ?» Il adore cette chanson-là et chaque fois que je le vois arriver, je le vois de loin, hop, j'attaque ça. Il s'arrête un peu près de moi, il chante un petit peu et participe au spectacle. Bien sûr qu'il y a des liens qui se créent. Des fois, les gens passent et puis même me font des confidences sur leur vie. Alors, des fois, j'essaye d'abréger parce que moi, je suis là pour jouer. Mais des fois, j'essaye d'arrêter, de me prendre un petit temps pour les écouter. C'est un rendez-vous quotidien, donc peut-être qu'ils m'attendent. Même c'est sûr, même qu'ils m'attendent là, parce que quand je pars, par exemple, cet été, je suis parti 2 mois en Italie. Il y en a à qui j'ai manqué, hein. Et puis ils sont venus me le dire. Ils m'ont dit, dis donc, ça va, c'était bien les vacances. C'est mes parents qui m'avaient suggéré d'essayer de jouer comme ça un peu en public pour essayer de rompre avec la timidité. Et en fait, j'ai accroché direct, quoi. Le fait que les gens s'arrêtent, essayent de comprendre ce que je fais, et puis m'écoutent. Voilà, c'est plaisant parce que, des fois on joue, mais on a l'impression de pas jouer correctement ou de faire des canards. Et du coup, il y a les gens qui s'arrêtent, qui te regardent, qui te mettent une petite pièce pour t'encourager. Je trouve ça génial.
Donc en fait, petit, quand vous y êtes mis, c'était plus facile de jouer devant des inconnus que de jouer devant sa propre famille.
Et ça l'est toujours. Et ça l'est toujours. Sur cette place, quand elle est remplie, il doit y avoir, je pense, plus de 300 personnes. Eh bien, j'aurais moins peur de jouer sur cette place que de jouer devant, par exemple, de temps en temps, je fais des petites fêtes de famille. Et je me suis retrouvé une fois, ils étaient peut-être 4 ou 5. Et ben du coup là le stress n'est pas le même. Là je suis tombé sur un, il y a quoi, il y a une semaine, un groupe qui, de golfeurs qui se réunissaient avant de faire un tournoi au Portugal, et c'était n'importe quoi. Ils m'ont accueilli en slip, c'était génial. C'était énorme. Donc il y a plein de trucs comme ça.
Du coup la timidité ça va mieux?
La timidité ça va un petit peu mieux, ouais ouais. Ça s'est arrangé. Ben c'est vrai que avec mon accordéon je me sens à l'aise. Quand je l'ai avec moi, il me donne la force en fait. et quand je l'ai pas et que je joue pas, je me sens pas bien. Je sais pas. C'est assez particulier comme sensation. C'est en fait, il fait partie de moi et effectivement, il m'aide à évoluer. Pour moi, c'est un traitement de prendre l'accordéon et d'aller jouer dehors.
Vous voyez faire artiste de rue avec l'accordéon jusqu'à quel âge?
Je viens de perdre ma grand-mère là, qui est décédée à 98 ans. Si je peux aller jusque là avec mon accordéon, ce serait pas mal. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Périgord.
En discutant avec un ancien de mon village au centre Périgord, j'apprends que quand un jeune garçon disait à une jeune fille « Volei que te baille ma barbe »« Veux-tu que je te donne ma barbe ?» Oh ! C'était extrêmement direct et très cru comme façon de draguer. Alors, même que la fille pouvait lui lancer un tir direct. En cherchant pourquoi, j'ai trouvé que « fa la barbe », faire la barbe à quelqu'un, c'était être plus habile, meilleur que lui. Faire la barbe, c'est se vanter. Veux-tu que je te donne ma barbe? Pourquoi c'est vulgaire? Du côté de la symbolique, avoir une grosse barbe, c'est symbole de virilité, d'autorité, de masculinité redoutable. Beléo, je dis bien beléo, que vouloir donner sa barbe, c'est vouloir un ébat sexuel immédiat. Souvent, les filles d'ailleurs répondaient « Faudriais-je meilleur bouillé que tu, père Henria? Il faudrait être meilleur bouvier que toi pour ouvrir le sillon. » Mais là, ça clashait quand même. Hein. Enfin, comme à l'époque. Adieu.
Ici, actu local, musique et bonne humeur.
écoutez ici la nuit et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Besançon.
Ici Besançon.
Louis Paton.
Ici Matin.
7h40, Arnaud Fromage est avec nous pour la nécessaire minute comptoise, hein, des infos insolites, improbables tous les jours. Bonjour Arnaud.
Bonjour, bonjour.
C'est mercredi aujourd'hui, il va falloir trouver une activité pour les enfants, forcément.
Oui, et comme ils n'ont repris l'école que depuis deux jours, je n'imagine même pas ce qu'ils peuvent avoir en tête. Tenez, nous sommes en juin 2015 à Beaucourt, dans le territoire de Belfort. Dans le cadre d'un atelier, les élèves du club de sciences du collège Saint-Exupéry s'apprêtent à réaliser l'expérience qu'ils préparent depuis des mois. Tout le collège est là, la presse est invitée, les scientifiques en herbe sont inquiets. Il est 9h20, l'heure H du jour J de l'année A est là, 10 mois de travail sont en jeu, leur ballon-sonde est prêt à s'envoler.
Oh, mais c'est juste ça, une expérience météo, c'est pas la peine de mettre autant de suspense, Arnaud.
Non, ce n'est pas qu'une expérience météo. C'est aussi une expérience charcutière, parce qu'au ballon-sonde, destiné à tutoyer la stratosphère, est attachée une saucisse de Morteau. Oui, les collégiens de Beaucourt ont décidé d'envoyer une saucisse dans l'espace. Dans le ciel de Beaucourt, une nacelle contenant un système, un fil chauffant activé par une minuterie destinée à libérer la Morteau au bon moment, s'élève, tirée par le ballon gonflé à l'hélium. À bord, deux caméras sont embarquées pour suivre le périple de la saucisse qui ne fait que commencer, sous les hurrahs de la foule qui s'élève.
Ah mais qui a eu cette idée, Arnaud, sans rire ?
En réalité, c'est un concours de circonstances. Au départ, il s'agissait bien d'envoyer un ballon-sonde, comme ça se fait souvent dans les clubs de sciences. Et puis, c'est au programme de quatrième, mais avec un petit personnage en plastique, en guise de charge. Or, il se trouve que le professeur de physique-chimie du collège de Beaucourt connaît bien Bertrand Vinçu, qui lui travaille régulièrement pour la promotion de la saucisse de Morteau. C'est à lui notamment qu'on doit l'idée de la Morteau mobile, envoyée sur la caravane du Tour de France en 2014. Alors forcément, ça fait tilt. L'association de défense et de promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté donne son accord. La Morteau va pouvoir s'envoyer en l'air.
C'est complètement fou. Bon, j'espère juste que personne ne s'est pris ensuite une saucisse sur la tête, parce qu'elle est forcément retombée après.
Effectivement, et je vous rassure tout de suite, personne n'a été blessé lors de la redescente de la Morteau, qui aura tout de même atteint les 30 000 mètres d'altitude, soit deux fois plus haut qu'un avion de ligne, avant de retomber près de Zurich, en Suisse. Une fois récupérée, la partie plus sérieusement scientifique a pu commencer avec les analyses de température et de pression atmosphérique par les élèves. Mais voilà, cette anecdote prouve une fois de plus que quand on veut faire une connerie, autant y aller à fond, parce que c'est très sérieux, la connerie.
Alors rendez-vous compte, une saucisse de Morteau dans l'espace, on en apprend vraiment tous les jours avec la nécessaire minute comptoise d'Arnaud Fromage. Vous réécoutez, vous voyez aussi des images évidemment sur ici.fr Besançon. Merci beaucoup Arnaud et puis à demain.
À demain.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Isère.
Dauphinoise, Dauphinois, bien le bonjour. Aujourd'hui, un village bien riant, dont le nom bizarrement fait rire aussi. On se demande bien pourquoi, proche de Saint-Marcelin, Chatte. Oui, je sais, c'est comme ça que cette charmante localité se nomme. Une grosse bise aux chatoises et aux chatois qui doivent en avoir marre de tout ce Dauphiné qui se marre aussi alentour. Alors, bien sûr, je pourrais rire aussi, mais je ne le ferai pas. Bien sûr, je pourrais vous parler du jardin ferroviaire, du jardin des fontaines, de la Galicière, de Miripili, l'île aux pirates. J'ai bien dit Miripili, j'ai dit juste, oui. Mais je vais vous parler, en fait, de cœur. Non, mais de cœur avec un H, bien sûr. Hein. C'est-à-dire de cet art étrange qui consiste à émettre avec sa voix, sa bouche, sa gorge, des sons mélodieux qui forment le chant. À plusieurs, on appelle ça un cœur, hein, avec un H, bien sûr. Et s'il s'agit de mec, un cœur d'homme. Et comme ce cœur se trouve justement à Chatte, il s'agit donc du cœur d'homme de Chatte. Pour celles et ceux qui ne sont pas du coin, je précise que ça n'est pas une blague. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Je les ai rencontrés, ils sont très sympathiques, talentueux et généreux. On pourrait dire qu'à Chatte, on a le cœur sur la main. Oh oui, oui. Je les avais entendus dans les caves de la Chartreuse, j'étais resté bouche bée devant ces hommes-là, la bouche ouverte, la gueule ouverte carrément. Hein. Honneur soit rendu à ce cœur de qualité du même tonneau que les foudres de Chartreuse qui vibrèrent également. Mais restons à Châtes, car cette cité n'a pas comme atout que ce merveilleux cœur d'homme. N'oublions pas que nous sommes en Dauphiné, n'oublions pas que nous sommes dans le cœur, mais alors sans H cette fois-ci, cœur sans H, de la merveilleuse noix dite de Grenoble. Oh, la noix de Grenoble, dont les noyers sont comme une forêt autour de Châtes, alors qu'il n'y a pas un seul à Grenoble, mais c'est pas grave. Bref, il y a d'ailleurs à Châtes un vieux moulin, oh, qui depuis plus de 200 ans fait de l'huile de noix, le vieux moulin de Léon. Eh oui, une huile également, mais une huile surtout de noix extraordinaire, la fameuse huile de Châtes, bien connue dans toute sa région et au-delà. C'est ça la belle qualité de notre Dauphiné, c'est que dans chaque localité, on a des choses passionnantes et surtout intelligentes à dire. J'en entends certains qui se moquent et je ne comprends vraiment pas pourquoi. En plus, je vais vous dire, Châtes vient en fait de Casta pour château, devenu ensuite Chaste, puis au cours des siècles, Châtes. Alors vous voyez, tous les rigolards qui se moquent et rifougnent feraient bien de fermer leur boîte à camembert et s'incliner bien bas, se morfondre en excuse. Châtes vient de Chaste, ça vous mouche en coin, bande de marteaux. Et pourtant, vous le saviez pourtant, qu'en Dauphiné, on n'est pas des quand même.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Cotentin.
On est face donc à ce bâtiment. On va dire qu'on démarre au 14e siècle. Bunou appartient au seigneur de Chiffrebas.
Mais là, ce qui est quand même impressionnant quand on arrive de cette allée, c'est effectivement cette grande bâtisse. On est à 30 mètres de haut, là, quand on est tout en haut de la toiture à peu près. Oui. Vous êtes arrivé en 89.
Oui.
Il y avait beaucoup de travaux à faire.
Alors depuis 89, on n'a pas arrêté.
Vous regrettez pas ?
Faut mieux pas. Des fois, je fais les comptes. Bon, je referme vite le... Mon épouse est née ici, ça a toujours été pour elle une passion. Bon, on partage les mêmes passions.
Elle est née ici à Saint-Germain ?
Ah ouais, elle est née ici à Bunou.
Vous habitez le manoir.
On habite une toute petite partie d'un ensemble.
Parce que c'est grand, c'est énorme.
C'est énorme, voilà.
Il y a combien de pièces ?
Ah bah je sais pas.
Ah, c'est vrai, vous n'avez pas compté.
Non, parce qu'il y a eu beaucoup de transformations, puis il y a des parties qui ne sont pas habitables.
Alors là, on arrive devant un portail tout en bois. C'est marqué Le Jardin 1989. Ça, c'est votre signature. Hein.
Oui, ça c'est, voilà. On va rentrer.
Voilà. On a une magnifique vue aussi autour de nous, sur la campagne avoisinante. Voilà.
Donc là, oui, on a le bois de la broche. Hein.
Vous avez un jardin là-bas potager là, aussi.
On a un petit, oui,
avec un verger.
Moi, j'appelle ça la volière inversée. En fait, ça sert à abriter les fruits rouges.
Ah oui, la volière inversée pour pas que les oiseaux rentrent dedans.
Voilà.
Vous habitez dans quelle partie ? Cette partie-là, là, qui est plus...
Non, cette partie ici.
Ah, la plus ancienne, en fait. Hein.
Oui. Bon, vous avez le pignon.
C'est magnifique, quand même. Hein.
Quand on est là, c'est vrai qu'on ne peut qu'admirer ce savoir-faire. Vous voyez les pierres qui sont posées. On se demande comment ça tient, par moment.
Oui, c'est ça. C'est des pierres qui sont quelquefois pas tout à fait très droites.
Oui, c'est pas des pierres taillées.
Et encore une fois, ça a 15-20 mètres de haut.
Alors, on va rentrer dans... Le logis.
Avec une grande cheminée, on a une table en bois paysanne un peu avec ses bancs, avec des poutres énormes au plafond.
On a cherché à retrouver ce que ça pouvait être à l'époque seigneuriale.
Médiévale,
enfin oui.
Ça c'est un bel escalier tout en pierre. Là on est dans la tour là ?
Oui, on vient de monter la tour escalier là.
Ah, ouais.
Alors, Bunou était victime d'une querelle entre Nicolas de Chiffrebas et Geoffroy d'Harcourt. Très connu dans le Cotentin pour tous les méfaits qu'il a pu commettre là. Nicolas de Chiffrebas ou un de ses hommes aurait tué par mégarde une biche qui portait les armes de Geoffroy d'Harcourt.
C'est étonnant. Alors, ça.
C'est relaté dans un document de 1356, donc on va y croire. Hein.
C'était sa biche.
Donc ça mérite vengeance. Et la mère de Nicolas de Chiffrebas, qui vivait à Bunou à cette époque, meurt d'effroi devant un tel acte de violence. Ça a vécu, quoi. C'est un manoir qui a vécu.
Ici,